Ensuite, je présenterai le premier sujet que je vais traiter et qui traitera surtout de la lecture de Kohelet, de la Megillah de Kohelet, qui est l'Ecclésiaste, pendant la fête de Sukkot. J'en dirai quelques mots tout à l'heure d'introduction. Et j'introduirai cette étude que nous allons suivre sur le texte qu'on vous a distribué, mais on vous a aussi distribué des Tanakhim, vendré à Kohelet, on aura besoin d'un certain nombre de versets, et que j'introduirai par une première introduction en général sur la place de Rosh Hashanah Rabbah, qui est la soirée de ce soir, et de Shmini Ha'atzeret, qui est Simchat Torah, dans l'ensemble de la liturgie de Tishri, dans l'ensemble des fêtes de Tishri. Pour ça, j'aurai à rappeler assez brièvement un certain nombre de notions qui vous sont pour une grande part familière de l'ordonnance du calendrier hébreu, mais que nous allons essayer d'organiser pour situer le moment de Tishri dans son ensemble, et en particulier Rosh Hashanah Rabbah et Simchat Torah, comme le point culminant de la rencontre des différentes lignes de force du calendrier, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors ceci sera la première étude, donc je répète brièvement, centrée surtout sur l'étude de Kohelet, avec une introduction sur la définition de Simchat Torah et de Rosh Hashanah Rabbah. Ensuite, je pense qu'on arrivera comme ça vers 11h30, et ensuite vous aurez une afsaka jusqu'à minuit. À minuit on commencera les slichot, et après les slichot, qui dure à peu près une heure et demie. Après les slichot, le rabbin Hazan fera une étude sur l'apport du Rav Kook, comment on peut dire ça en français, le chidouche que le Rav Kook a apporté, c'est-à-dire le renouvellement de sens que le Rav Kook a apporté sur la notion de Teshuvah. Je crois qu'il a intitulé cela en hébreu Or Hadash Al Atshuva. Et après cette étude du Rav Hazan, c'est David Ben Ezra qui étudiera sur une page de Gemara de Sukkah, de la Maseret Sukkah qu'on vous distribuera, un certain nombre de problèmes concernant la mitzvah du Lulav, et à travers lesquels il analysera le thème général de la problématique ou la tension qu'il peut y avoir entre l'aspect proprement éthique et l'aspect esthétique dans la mitzvah. Ça vous arrivera, moi j'aurais disparu entre temps, mais ça vous amènera à peu près à l'heure où on commence le shachrit au Kotel. Alors vous aurez à décider à ce moment-là s'il pleut pas ou s'il pleut, ce que vous aurez à décider pour la tefila de shachrit de ce matin. D'abord quelques mots très généraux et très rapides, mais entrez vous asseoir parce que je ne peux pas parler s'il y a du monde debout. Enfin, entrez vous asseoir. Il reste des places, il reste pour son niveau. Il y en a une place là. C'est très. Et comment ils vont arriver? Sur l'institution de ces nuits d'études dans les trois fêtes de pèlerinage, et c'est-à-dire la nuit de Shemini sur Pessah, du septième jour de Pessah, celle de Shavuot et celle du septième jour de Sukkot, qui est la nuit de Rosh Hashanah Rabbah. Par définition, la nuit d'études qui est la plus connue, et disons dont l'usage c'est le plus répandu dans le plus grand nombre de communautés, c'est pratiquement un minhag commun à toutes les communautés, Ashkenazim, Sfaradim, Hasidim, Netemanim, c'est la nuit de Shavuot. Là, j'en dirai très peu de choses. Et je veux dire que la logique du rite va de soi. Il s'agit de la préparation au matin de Torah, et donc toute la nuit est consacrée à des textes concernant l'importance de la Torah, le moment qu'a représenté dans l'histoire humaine en général le fait que Dieu, sur le Sinaï, a confirmé que le monde a été créé, qu'il a un sens, et a révélé sa volonté pour l'histoire de l'humanité, avec pour objectif de réussir le sens qu'il a assigné à l'histoire du monde. C'est dit de façon très schématique, Bien. Alors, je disais donc...
On est parti dans l'autre sens.
Oui. La nuit de... La nuit de Shavuot est consacrée donc à la préparation de Matan Torah, qui est commémorée le lendemain matin. D'autre part, la nuit de Shavuot est Pessah, c'est-à-dire le septième jour de la fête de Pessah, qui commémore le passage de la mer Rouge. Et là, il faut noter qu'à Pessah, il y a deux fêtes différentes. Les premiers jours de la semaine de Pessah commémorent la sortie d'Égypte à proprement parler, Yetziat Mitzrayim. Le septième jour de Pessah s'appelle Atzeret Shel Pessah. La clôture de la fête de Pessah est une fête pour elle-même qui commémore le passage de la mer. Donc c'est un sujet que nous étudions à propos de Pessah, mais ceci pour dire que la nuit d'étude de Shavuot Shel Pessah est consacrée en général à des thèmes concernant la Emouna, la foi que le miracle est possible, en relation avec l'événement du passage de la mer Rouge qui a finalement rendu efficace la sortie d'Égypte. Tant que la mer Rouge n'était pas traversée, il y avait encore le danger que l'Égypte reprenne Israël sous son esclavage. Après le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte a été, je ne sais pas comment dire en français, mais effective. Et puis, la nuit de Rosh Hashanah Rabbah qui a été instituée un peu plus tardivement, et qui n'est pas forcément commune à toutes les communautés, c'est la raison pour laquelle je voulais vous signaler cela en introduction un peu générale. Alors chacune de ces nuits a un tikkun particulier, c'est-à-dire toute une liturgie particulière, et avec les générations finalement, on n'a plus été capable de simplement, en lisant tous ces textes qui concernent les sujets de la commémoration à chaque fois, d'être instruit du contenu. Et puis nous sommes déjà dans des générations très orphelines, si on peut dire, où on choisit quelques thèmes de tous ces textes pour les étudier et les découvrir, les découvrir en les étudiant. Je vous dirais ce qu'on avait l'habitude de lire, je me souviens encore enfant, on lisait ça toute la nuit, le soir de Rosh Hashanah Rabbah. C'est tout le Sefer de Devarim, c'est-à-dire le cinquième livre de la Torah, et la récapitulation de toute la Torah pour l'entrée de la génération des fils qui vont entrer dans le pays du Canaan, puisque les quatre premiers livres, c'est la révélation de la Torah à la génération des pères, ceux qui sont sortis d'Égypte, et le cinquième livre, le livre de Devarim, c'est la récapitulation de toute la Torah pour la génération qui est entrée en Israël. Ensuite, on lisait tous les cinq livres de Psaumes, plus un certain nombre de commentaires du Zohar, qui avait pu en pour objet les temps messianiques, et aussi de commentaires, de textes de la Gemara qui ont le même sujet. Et ceci était entremêlé des slichot du Rebbe Kippour. Je vais essayer d'expliquer tout cela, ça va faire un faisceau d'éléments qui vont s'expliquer tous ensemble. Ça, du coup, Yahdaf. Et je dirai immédiatement, d'ailleurs, pourquoi. Et il en résulte donc que le thème principal de l'étude de Rosh Hashanah Rabbah, c'est le thème messianique. Retenez bien cela parce que nous allons le retrouver avec Corélé. En particulier, la principale question qui se pose à propos de l'étude du livre de Corélé, c'est pourquoi il a été institué, sa lecture a été instituée dans la fête de Sukkot. Alors, quelques mots d'introduction sur les Megillot. Vous savez que les Megillot font partie de la troisième partie du Tanakh, le Ketuvim. En général, on les appelle les rites de la sagesse, en général. Et à chacune des fêtes, des grandes commémorations qui nous relient aux événements fondateurs de l'histoire d'Israël, une de ces Megillot est récitée le Shabbat de la fête. Je vais vous le dire très brièvement. À Pessah, on lit Shirashiri. À Shavuot, on lit la Megillah de Ruth, l'histoire de Ruth, et Michelé. À Tisha B'Av, on lit Echa et Yo, et j'ai rien oublié entre temps, non? Et à Sukkot, on lit Kohelet. Kohelet, c'est le livre de l'écrit. Pour
Rimke.
Et pour Rimke, le livre des Sukkot. Et je sentais bien qu'il me manquait l'espoir. Et la question qui se pose, c'est comment se fait-il que la tradition, pour faire correspondre à la fête de Sukkot, qui a son point culminant dans le huitième jour de fête après les sept jours de Sukkot, qui est Shmini Atzeret, s'appelle le huitième jour clôture de la fête, qui, comme vous le savez, en exil se dédouble il y a deux jours de Shmini Atzeret, mais en Israël, ça coïncide, c'est-à-dire le deuxième jour de fête en exil, c'est Simchat Torah, alors qu'en Eretz Israël, c'est le jour de Shmini Atzeret lui-même, c'est Simchat Torah, que ça culmine dans cette perspective messianique de laquelle je parlerai plus abondamment tout à l'heure, on ait choisi de lire un livre qui apparemment est un livre pessimiste. Je dis bien apparemment, et vous devinez que toute l'étude aura pour objet d'évacuer cette apparence de pessimisme du livre de l'Ecclésiaste. Je vous rappelle simplement le verset de base qui est censé fonder ce pessimisme du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Je vous rappelle de cela, en hébreu c'est encore plus fort. Avec la valime, avec la valime à Marcolé, avec la valime à Marcolé, avec la valime à Col, avec tout n'est rêvé. On traduit habituellement vanité. Nous verrons tout à l'heure le sens du mot en hébreu, qui est encore beaucoup plus pessimiste apparemment. Et je vais essayer, en me basant sur un certain nombre de midrashim, d'inverser cette apparence et de montrer au contraire que c'est un livre optimiste et qui se relie très étroitement avec la signification de Sukkot comme fête messianique. Et alors je reviens donc à la première partie, c'est-à-dire la situation du moment de Tishri que un de mes amis qui signe David Yassi, ça dit quelque chose, et qui s'appelle David Yassi, c'est son nom littéraire, mais Georges David, a appelé dans un de ses livres le rendez-vous d'octobre. Vous voyez comment il peut s'assimiler. Le rendez-vous d'octobre. Enfin bref, c'est un contexte judéo-français, ça tombe juste, grosso modo. Et je veux dire, toute cette liturgie de Tishri, comment elle se situe dans l'ensemble du calendrier, ça nous donnera une introduction à l'abord du livre de l'Ecclésiaste. Bon, j'espère que j'étais suffisamment précis pour l'introduction de toutes ces choses. C'est très important à comprendre ensemble, si je veux. Bien, je voudrais d'abord rappeler un principe important du calendrier hébraïque, en schématisant beaucoup. C'est qu'il y a, dans le calendrier hébreu de l'année, le chevauchement de deux années de commémoration différentes. La première année de commémoration, qui commence à Tishri, a pour objet l'envergure de commémoration universelle à l'échelle du monde tout entier, de la création tout entière. J'en donne qu'un seul point de repère, mais ça suffit déjà pour situer cette année qui commence à Tishri et qui donc se termine à la fin du mois d'Eloul et qui dure toute une année, c'est le fait que le premier de Tishri commémore la création du monde. Et la création du monde concerne toutes les créatures. Et c'est un thème très connu que Rosh Hashanah, même Kippour, qui apparemment est le jugement, le jour du pardon et l'expiation pour Israël, en réalité même le jour de Kippour, et la fête de Sukkot qui se situe à Tishri, concerne l'humanité tout entière, comme nous allons le revoir d'ailleurs dans plusieurs références. C'est une première année. Et s'inscrit dans cette année de Tishri, que j'appellerai l'année de Tishri, les événements qui concernent les grandes étapes de la réalisation du projet du Créateur à travers l'histoire universelle. C'est d'emblée à l'échelle universelle. Une deuxième année chevauche cette première année-là. Et elle commence le Rosh Chodesh Nissan. C'est l'année qui commence le mois de Nissan. Cette année qui commence le mois de Nissan va se terminer à la fin du mois de Hadar. Et vous voyez donc il y a six mois entre Nissan et Tishri. Tishri le septième mois à partir de Nissan. De la même manière, Nissan est le septième mois à partir de Tishri. Il y a donc deux années qui se chevauchent et qui d'une certaine manière se prennent en relais l'une l'autre. Retenons donc ce premier principe. Il y a un thème important qui apparaît là, qui peut pourrait faire l'objet à lui seul d'une étude pour elle-même, c'est le thème qui se formulerait ainsi, qu'il n'y a pas de fin d'année dans la conception du temps de l'année hébraïque. Si vous le comparez avec l'année civile, quel que soit d'ailleurs le calendrier, alors vous avez un jour de l'an où l'année commence, et puis vous avez finalement un 31 décembre où l'année finit, c'est-à-dire l'année se clôt sur elle-même. Et elle disparaît pour avoir fini. Elle est achevée, dans le sens total du terme. Elle est achevée. Et inévitablement, ça renvoie, qu'on le veuille ou pas, tout ceci est assez schématique, parce qu'il faut beaucoup nuancer suivant les différentes cultures qui ont parlé du temps. Chaque tradition a sa conception du temps, elle se reflète dans sa manière de structurer le calendrier. Ça renvoie au temps cyclique, qui est un temps pessimiste. C'est-à-dire, les choses recommencent, les choses reviennent. Et vous trouvez là le premier thème du livre de l'Ecclésiaste. Tout revient, semble-t-il. Retenez tous ces éléments. J'avais tout expliqué cela de la manière suivante. C'est que l'année du soleil a pour nom Shana, en hébreu. Shana, je vais vous mettre au tableau. Les voyelles ne sont pas exactes, vous les comptez. Shana, j'ai appris les choses en voyelles. En voyelles. Alors, l'année s'appelle Shana, et ce mot de Shana a pour sens fondamental la racine qui va donner le mot de Shinui. Shinui, en hébreu, veut dire le changement. Mais c'est une définition très précise du changement. Et on va s'aider d'un autre mot qui se rattache un peu plus lointainement, mais à la même racine, c'est le mot de Shnaïm, Sheni, deuxième. C'est le changement qui fait devenir autre, qui fait devenir quelqu'un d'autre. Et selon le Midrash, ce temps de l'année qui se referme sur elle-même pour laisser la place, et qui disparaît pour laisser la place à une année seconde, à une année qui vient après, c'est le temps qui mesure ou qui rythme l'histoire des nations, l'histoire des grandes civilisations, l'histoire des Umot Haolam, les nations du monde, les grandes cultures qui se sont succédées directement. Et il n'y a pas de doute que, du point de vue du Midrash, et nous sommes confrontés à cette histoire parce que nous situons à la fin de ce cycle de ces quatre grandes civilisations qui se sont succédées que le temps d'Israël a traversé, qu'effectivement, tout se passe comme si l'histoire, c'est la succession de grandes années, comment dire, de grandes années de civilisation, de grandes années de culture, qui s'achèvent et disparaissent et laissent la place à énormément de travaux d'archéologie, de thèses d'histoire et de tout ce que vous voudrez, mais ça se passe dans les cimetières ou à l'université, et qui laissent la place à une autre civilisation. C'est-à-dire chacune est Shnia par rapport à la première. J'ai en tête un livre qui a été, au temps de mes études générales, qui a été très important. C'est un livre d'un Allemand, d'ailleurs, qui s'appelle La philosophe de l'histoire, qui s'appelle Sprenger. Et ce livre s'appelle Le déclin de l'Occident. Je ne sais pas s'il l'a eu entre les mains. Je vous conseille de le lire, si jamais vous le rencontrez. Et Ostart Sprenger, si je me souviens bien, à viser ce thème-là. C'est-à-dire, tout se passe comme si les structures du développement d'une grande culture sont fondamentalement les mêmes et c'est le style qui change. D'après la conception juive de ce problème, c'est plus que le style qui change. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est le shinui. Il y a un changement radical, c'est changé, on devient autre. Je vais vous donner un adjectif en français qui vient du latin et qui nous montre bien cette idée de shinui, le changement néfaste, le changement qui assassine, c'est pas comment dire, le changement qui achève, qui fait mourir. Et le shinui, c'est quelque chose qui est contraire à la sensibilité traditionnelle juive. Shinui interdit, parce que le shinui mène à la disparition. Est-ce que c'est bien clair? Et je reviendrai sur ce point, parce que c'est plein de pièges de parler de ces choses-là avec une langue aussi nuancée que le français. Je suis bien sorti. Mais, disons avec une langue étrangère. Étrange. Et L'idée du chinouj, c'est un changement qui fait devenir quelqu'un d'autre. Et en français, vous avez le mot de d'autre qui vient de la terre, alter. Alter, hein, et qui a donné deux substantifs en français.
L'alter, ça veut dire autre. Et puis le deuxième substantif, c'est l'altération.
Voilà. C'est clair. Devenir autre en tant que altéré, c'est-à-dire en tant que changé. Alors ça, c'est ce à quoi nous renvoie l'année de Tishri, c'est-à-dire l'idée du temps universel et finalement qui mène à la notion de temps cyclique. Il y a une fin de l'année, si nous le prenons dans la conception de tous les calendriers des cultures autres que celles d'Israël. Commencement de l'année, et puis ça se déploie, ça arrive à son apogée, ça, il y a le déclin, et finalement, le déclin de l'Occident, c'est le type du livre que je vous ai cité. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si Springer le donnait. La culture occidentale a eu son grand siècle au XVIIe siècle. Or, dans la symbolique, ne fût-ce qu'inconsciente des nations, c'est le siècle du roi soleil, mais l'année du soleil, jamais. C'est pas inventé tout ça, ça s'est passé comme ça. Et cette année-là, elle, donc le Midrash la situe dans la formule que je rappelle de nouveau, c'est-à-dire le temps des nations est compté d'après le cycle du soleil. Ça nous renvoie aussi à un thème de l'Église. En Hadash, Tahas Hashanash. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau, mais dans un autre mot, un autre sens. Hadash, qui renvoie au monde physique. Sous le soleil. Ça veut dire que si on peut établir là une équivalence, c'est comme si l'Ecclésiaste avait voulu dire il ne se passe rien de nouveau chez le Grec. En Hadash Tachat HaShamesh. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que dans le temps qui se compte par Shanim, par Shana, par Shinui, et tout se passe comme si, je nuance un peu, tout se passe comme si il n'y a rien de nouveau. Et effectivement, nous sommes les témoins de cela, en tant qu'Israël est le témoin de cela, que les différentes civilisations se sont succédées, elles ont vraiment disparu en laissant un héritage dans la mémoire, mais non plus dans la réalité. Pendant ce temps, Israël traverse le temps des nations dans la dimension du Kiddush. Alors là, ça nous mène à un deuxième terme qui signifie aussi changement, mais dans un sens complètement différent, et qu'il ne faut pas confondre ces deux termes, shinui et shinui. Shinui est un terme négatif, péjoratif, pessimiste. Je pense l'avoir suffisamment expliqué. Alors que chidouche, c'est tout l'opposé. C'est le fait de changer, mais en restant soi-même, en restant le même, se renouveler. Je ne sais pas si les traductions arrivent à rendre exactement le sens de cela en hébreu directement, mais je pense que vous l'avez suffisamment saisi. De même que Shana renvoie à Sheni, Shnaï, Chidush renvoie à Echad, par la racine Had, qui en araméen signifie un. Et tout se passe comme si l'histoire, c'est une lutte entre le temps et la personne. Si, et la personne humaine, le nefesh, si le temps est plus fort que la personne, il y a dégradation, il y a chinouï, c'est l'année du soleil. C'est clair? Et si la personne est plus forte que le temps, il y a chidouche, et donc netzach Israël. C'est la dimension d'éternité qui est acquise lorsqu'on dispose de cette force du chidouche. C'est précisément la deuxième année, celle qui prend en relais la première et qui la chevauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait qu'il n'y a pas de fin d'année. Lorsque l'année de Tishri arrive à son apogée, on est au mois de Hadar. L'année de Tishri va descendre et s'achever. Pendant ce temps, l'année de Nissan la prend en relais et la pousse plus haut. Donc il n'y a pas un cercle cyclique qui se referme sur lui-même, il y a une sorte de spirale où une année prend l'autre année en relais. Et il y a donc un temps optimiste qui vient du cohort de la force du Kiddush. Alors, ce n'est pas par hasard que la première des mitzvot qui sera donnée à Israël à la sortie d'Égypte à Nissan, concerne précisément ce thème. On rappelle du verset « Achodesh Azelachem Rosh Chodesh ». C'est-à-dire, en sortant d'Égypte, Israël entre dans l'histoire avec la capacité de Chodesh. C'est-à-dire, alors que le temps a pour résultat une érosion de l'être, et c'est le témoignage de toutes les civilisations, on voit que le temps en Israël a une toute autre dimension, a une toute autre réalité, c'est un temps de renouvellement. Et c'est pourquoi le Midrash, c'est sa deuxième formule, dit « alors que le temps d'Israël est compté suivant le renouvellement de la lune ». Le Chodesh, qu'on traduit par le « mois », signifie en hébreu « l'année de la lune ». Le mois de la lune, c'est une année de la lune. C'est bien fait. Voilà donc le premier principe. Ce qui est visé dans le thème messianique général de toutes les prophéties, c'est la coïncidence, l'unité de ces deux êtres. Et je n'aimerais que un exemple, sinon ça nous prendrait beaucoup de temps, un exemple concernant précisément la fête de Soukou. C'est que normalement, si à la sortie d'Égypte, l'état général universel de l'humanité était arrivé au même point de Tikkun que cette avant-garde qu'a été Israël sortant d'Égypte, alors les deux années auraient été fusionnées. Il n'y aurait pas eu ce décalage que nous avons entre le cycle de Nissan et le cycle de Tishri. Entre tout le mois de Nissan, qui est un Chodesh de fête, qui a son huitième jour décalé de cette semaine à Shavuot, nous verrons tout à l'heure pourquoi, mais vous voyez le même rite, 7 jours de Pessah, atterré, le huitième, ça devrait être Shavuot, le lendemain du septième jour de Pessah, c'est décalé de cette semaine. Mais Shavuot n'a pas de date particulière dans la Torah, on le fixe en comptant 50 jours à partir de Pessah, cette semaine, le lendemain. Vous y êtes ? Donc, c'est pourquoi Shavuot est appelé d'une certaine manière le huitième jour de Pessah. Ça c'est Tishri, ça c'est Nissan. Et vous avez à Tishri, j'indiquerai tout à l'heure un parallèle plus précis, vous avez à Tishri la fête de Sukkot avec le huitième jour, Shemini Havaratzeret, qui est Simchat Torah. Et avec les deux points d'appui, Matan Torah à Shavuot, c'est clair pour tout le monde, le mot en groupe. Le Matan Torah à Shavuot, c'est l'achèvement du cycle de Nissan, et Simchat Torah à Sukkot, c'est l'achèvement du cycle Tishri. Vous y êtes ? Nous allons voir que le parallèle est encore plus précis que cela. Mais je reviens sur ce point que j'étais en train d'expliquer. C'est ceci, c'est que si l'état général de l'humanité, ce qu'on appelle la génération, le mérite de la génération, chaque fois que vous rencontrez cette expression dans les textes, ça ne signifie pas seulement la génération du peuple d'Israël, ça veut dire la génération globale, générale de l'universel humain. Si le mérite de la génération avait été suffisant, alors Tishri et Nissan auraient coïncidé. Et en fait, tout se passe comme si la fête de Pessah aurait dû se faire dans des Sukkot. Je ne veux pas charger trop d'érudition de versets. Enfin, ceux qui connaissent le texte, vous y référez tout de suite dès que vous entendez le lien. Et puis les autres rencontreraient ces textes et vous raccorderez à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsqu'Israël sort de l'île, il entre dans le temps de la Hashgacha. Il entre dans le temps où il est délivré, libéré, il en a eu la preuve, des conditionnements de toute ordre à tous les niveaux, le point culminant étant le passage en Égypte, c'est-à-dire même les conditionnements naturels, et il entre dans le temps de la Hashgacha, c'est-à-dire où il est directement lié à la providence. C'est bien clair. Or, ça n'a réussi que pour Israël. Mais ce temps-là, c'est le temps des Sukkot. La Sukkot commémore précisément, représente précisément ce fait, vous référez au verset correspondant, que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des Sukkot, dans les camps de Sarkoudoni, qui va Sukkot, Shabti et Bene Israël. Vous rappelez de cela ? Et effectivement, il y a une allusion comme ça dans le récit biblique, que dès la sortie d'Égypte, Israël, sous la conduite de Moïse, arrive dans un endroit qui s'appelle Sukkot. Il y a même un nom de famille, Sukkot. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Ils sont là, donc tu les connais. Et je pense que l'idée est importante. Et je ne sais pas si suis arrivé suffisamment à l'exprimer, c'est ceci, c'est que tout se passe comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'humanité qui doit sortir d'Égypte, c'est-à-dire faire l'expérience d'être délivré des conditionnements qui mènent aux déterminations. C'est cette expérience-là, l'expérience de Galut Geula. La Geula, finalement, c'est l'expérience qu'on peut être délivré des conditionnements, tous quels qu'ils soient, et des déterminismes, tous quels qu'ils soient. Et à partir du moment où cette expérience a eu lieu, alors on sait que c'est vrai que le monde a un créateur. La notion que Dieu a créé le monde, à Tishri, n'est rentrée dans l'expérience au niveau de la réalité qu'à Nissan avec l'expérience de la Géoula. Je le dirais de façon très simple, mais c'est un sujet pour lui-même. Parce que on savait, les initiés savaient, depuis le premier homme et à travers la grande lignée des initiés qui a mené à Abraham, et dont la Bible nous raconte l'histoire. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous raconte l'histoire des générations, depuis le premier homme jusqu'à Abraham, en nous donnant le nom des initiés de chaque génération. Quand je dis initiés, c'est parce que c'est le mot qu'on emploie en français pour dire ces choses-là, mais il faudrait dire les prophètes, les avot haolam, comme on trouve dans nos textes, les pères de l'humanité. Ils savaient que le monde avait un créateur, mais c'est devenu évident dans l'expérience à la sortie des livres. Voilà l'explication simple que le Kuzari nous donne. Mais qui mène à des choses beaucoup plus profondes d'ailleurs, pour elle-même, c'est que si, à quoi ça sert de savoir que le monde a un créateur, s'il n'est pas évident qu'il intervient pour achever, parfaire sa création. C'est évident que le sort de la créature n'est pas suffisamment honorable par rapport à l'idée du créateur tant que la Géoula n'est pas totale. Tant qu'on n'est pas complètement délivré de la condition de créature à partir du néant, alors il y a contradiction spirituelle entre l'idée du créateur et la condition de la créature. C'est à Pessah que l'idée que Dieu a créé l'homme, le monde de l'homme, a trouvé son évidence expérimentale, si j'ose dire. Et c'est pourquoi dans l'ensemble de la liturgie, vous avez toujours associé Zecher le Maase Bereshit, Zecher le Tiers Nitzach. Commémoration de l'œuvre du commencement, la création, commémoration de la sortie d'Égypte. Énormément de Midrashim, d'ailleurs, font un parallèle très étroit entre le commencement à la création et le commencement à la sortie d'Égypte. Je vous dirai ça, au niveau de l'exégèse, c'est extrêmement riche. On lit les textes de la création du monde à travers l'éclairage des événements de la sortie d'Égypte. Et on lit les textes de la sortie d'Égypte à travers l'éclairage des textes de la création du monde. Je ne sais pas si vous voyez qui ça mène. Et effectivement, il y a là deux commencements différents. Le commencement à l'échelle universelle, c'est Tishri. Rabbeinu Bechaye, en citant le Zohar à sa manière, a montré cela en disant que Tishri commémore la création du monde. Je ne sais pas si vous avez signalé une fois. Il prenait le mot de Bereshit. Il apparaît à l'œuf de Tishri. C'est le même. Au commencement, c'est le premier. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Tishri n'est pas un mot hébreu. Le mot ramène. C'est vrai, juste. Et ça a été adopté, mais c'est un mot arabe. En fait, d'ailleurs, ça se relie à notre premier thème, le calendrier, au temps des patriarches, était le calendrier où le premier mois était à Tishri. C'est à la sortie d'Égypte que le calendrier a commencé à être celui dont le premier mois est à Nissan. C'est clair. Vous voyez que dans toute l'époque de gestation, que nous appelons la période des pères, le temps des avos, Israël émerge de la civilisation universelle. Le calendrier est celui de la civilisation universelle, c'est-à-dire celui qui commence à Tishri. Et lorsqu'Israël est constitué comme tel, alors commence son temps propre qui est à partir de Nissan. Parce que pour la Torah, le mois de Tishri va être appelé le septième mois. Or, il est paradoxal que le premier mois de l'année soit le septième mois du calendrier. C'est-à-dire, ce changement est au moment de, est au moment de la sortie d'Égypte. Ça me mène donc à, au parallèle, cette fois dans le détail, entre l'événement qui s'est passé, les événements qui se passent à la sortie d'Égypte et qui sont commémorés au mois de Nissan, qui inaugurent l'année où viennent se ranger les événements propres à l'histoire d'Israël en particulier. Je ne sais pas comment écrire cela. Par exemple, le 14 juillet, qui est un événement important de l'histoire de l'humanité, et aussi d'Israël, hein, par la banque. Ça nous donne des droits sur la place de la Bastille, puisque à partir du 14 juillet, après la prise de la Bastille, l'histoire juive a changé. Donc, de la même manière que les Goïms réclament Jérusalem parce que c'est important pour eux, nous pourrions réclamer la place de la Bastille. Mais disons, le 14 juillet se rangerait plutôt dans l'année de Tishri, alors que Yom HaTzmaout, évidemment, se range dans l'année de Nissan. Voyez le chapitre. Quoique, on comprend bien qu'il y ait des harmoniques, des correspondances entre les, un événement universel important dans, les, dans, les, dans la visée messianique, un retentissement sur l'histoire d'Israël. Un événement de l'histoire d'Israël important dans la visée messianique, un retentissement sur l'histoire universelle. Et c'est là aussi. Voilà donc le premier principe que l'on peut mettre en évidence. Pourquoi le temps des Hébreux est un temps optimiste? C'est parce qu'il n'y a pas de fin d'année. Et pourquoi il n'y a pas de fin d'année? Parce que du dedans même de l'année universelle, qui elle a toujours tendance, à cause du fini, à aller vers la mort, surgit de façon renouvelée perpétuellement cet élan propre à l'histoire d'Israël et qui s'appelle le Kiddush et qui même est en mission. Cela est pris en relais. Vous pourrez réécrire toute l'histoire de la dialectique Israël-Diaspora à travers les siècles, que vous avez qu'à la limite, on pourrait écrire l'histoire d'Israël de deux manières. Les historiens de la diaspora font l'histoire d'une diaspora coupée de quelques temps de vie nationale, alors que les historiens d'Israël font l'histoire d'une nation coupée de longtemps d'exil. Ce sont deux histoires très différentes. C'est la même, la réalité. Mais ce sont deux points de vue sur l'histoire qui sont complètement différents. Et on pourrait la réécrire dans cette polarité de Nissan Tishri aussi. Il y a cette même dialectique de la spécificité, de l'universalité, comme on dit, de l'identité d'Israël. Alors, très brièvement, avant d'aborder le thème de Kohelet, je voudrais pousser ce parallèle encore un peu plus, de façon un peu plus précise. Le premier jour du mois de Nissan, le Rosh Chodesh Nissan, correspond au Rosh Chodesh Tishri, qui est Rosh Hashanah de Tishri. Et c'est les premières mitzvot qui sont données par Parashat HaChodesh, les premières mitzvot qui sont données à Israël, c'est le premier du mois de Nissan. C'est le commencement de la Torah au niveau de mitzvot. Je ne reviens pas sur une question que nous avons déjà étudiée à une autre nuit d'études, le Midrash, sept fois dans le Midrash, dans différents Midrashim, mais sept fois, le Midrash a posé la question pourquoi le texte de la Torah ne commence pas à la sortie d'Égypte, puisque c'est là que commence l'histoire d'Israël. Vous voyez, c'est comme ça. Et surtout, la manière dont Rashi cite ces Midrashim, puisque c'est la première mitzvah donnée à Israël, c'est concerne la sortie d'Égypte. Pourquoi ne considère-t-on pas tout ce qu'il y a avant la sortie d'Égypte comme une préhistoire renvoyée à la préhistoire, puisque notre histoire ne commence à prendre son sens qu'avec la sortie d'Égypte? Non, la Torah nous a donné, malgré tout, cette préface qui commence à la création. Donc le Rosh Chodesh Nissan correspond à Rosh Chodesh Tishri, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. Le 10 de Nissan correspond au 10 de Tishri qui est Kippour, le 10 de Tishri. Mais le 10 de Nissan est un jour très important dans le mois de Nissan. C'est le jour où s'est décidée la sortie d'Égypte. Je vous rappelle très bien. C'est Parashat Erasot. C'est le 10e jour de Nissan, 4 jours avant la sortie d'Égypte, les Hébreux devaient préparer l'agneau du sacrifice. Or, cet agneau était censé représenter dans la mythologie égyptienne, dans le catéchisme égyptien, je ne sais pas comment dire, la divinité elle-même. C'est-à-dire, imaginez la scène, imaginez l'événement, que les Hébreux, qui étaient un peuple soumis en esclavage dans des camps de concentration, décident de commencer sur la mitzvah de Moïse, décident de prendre un agneau au vu et au su des Égyptiens, et là je vous cite les Midrashim, qui ont demandé, mais pourquoi vous prenez un agneau qui est notre, je ne sais pas comment dire, en Inde, les vaches sacrées, enfin, notre Dieu, ça représentait leur Dieu, et vous savez d'ailleurs ce que le christianisme a fait de ces expressions-là, hein, l'agneau, tout ça. Imaginez, je ne trouve pas les mots, mais vous comprenez l'idée, imaginez le courage qu'il fallait aux Hébreux pour prendre au vu et au su des Égyptiens un agneau, lorsque les Égyptiens demandaient qu'est-ce que vous faites, nous nous préparons à sacrifier votre divinité. Crime rituel maximum. Et effectivement, la Torah, comme en passant, nous dit, ils ont fait ça. Ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce courage de se révolter contre la civilisation égyptienne et d'attester qu'ils allaient briser cet asservissement à la religion païenne de mentalité astrobiologique, qui était celle de l'Égypte de l'époque, qui, suivant la constellation du zodiaque considérée, considérait à cette époque-là que le symbole de la divinité était la lune. C'est clair jusque-là? Donc ça, c'est le 10 de Nissan, qui correspond au jour de l'année dans le mois de Tichri. Ensuite, il y a le 14 Nissan qui correspond au 14 Tichri, d'un côté Pessah, de l'autre côté Sukkot. Puis il y a le 21 Nissan, qui est le 7e jour de Pessah, qui correspond à la journée de Rosh Hashanah, qui est le 21 Tichri. Et normalement, le 8e jour de Pessah aurait dû être Shavuot, c'est-à-dire la révélation de la Torah. Mais l'état d'impureté dans lequel Israël est sorti d'Égypte a demandé une préparation qui est mesurée en 7 semaines, de la même manière qu'au moment de la naissance de l'individu, l'état d'impureté est mesuré en 7 jours, au niveau de la nation, il est mesuré en 7 semaines de désintoxication, en quelque sorte d'arrivée au Sinaï pour la Torah. Et cela, ça correspond pour nous à Simchat Torah le lendemain de Rosh Hashanah. Il y a une deuxième correspondance que je vais indiquer très rapidement, c'est que dans le mois de Tichri, et précisément dans la fête de Sukkot, les deux cycles de fêtes bibliques, les fêtes de pèlerinage, qui commémorent l'histoire d'Israël, l'histoire des événements fondateurs de l'histoire d'Israël, Pessah, Shavuot, Sukkot, rejoignent la liturgie de Tichri, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui est à l'échelle universelle, Dieu juge sa création, et se rejoignent très précisément dans Sukkot. Il y a à Sukkot aussi un aspect qui concerne l'ensemble de l'humanité, et plus particulièrement Hoshana Rabbah, qui est l'achèvement du jour de Kippour. Il reste donc ces deux principes à expliquer avant d'aborder le livre de Kohelet. Dans plusieurs textes, tant dans la Gemara que dans le Midrash, et en particulier dans la Gemara de Seta, la Gemara de Shabbat aussi, on indique que les 7 jours de la fête de Sukkot, on apportait comme sacrifice au temple, indépendamment des sacrifices demandés dans la fête elle-même, par la liturgie habituelle de chaque jour de la semaine, 70 parim, parim c'est le taureau, okay, 70 bêtes, parim c'est le taureau, okay, bêtes du sacrifice pour les 70 nations. C'est-à-dire la fête de Sukkot est une sorte de fait de rejoindre, le fait que la liturgie d'Israël rejoint l'universel humain. Ça c'est le premier principe. Je vais très brièvement, quelque chose que nous avons étudié plus en détail l'année dernière, il me semble. Nous avons fini l'étude l'année dernière. C'est le fait que la Gemara de Sota, d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai dit Sota ou Sukkah? Sota. Vous voyez comment on travaille inconscient. Non, tout à l'heure, c'était Sukkah. Hein. Maintenant, c'est Sota. Voilà, au début de la Gemara de Sota, il y a un extraordinaire mirage la Guémara nous raconte le jugement dernier. On va comparer, on va juger ce qui s'est passé dans la réalité par rapport à la norme de vérité qui est la Torah. On va comparer les livres. Avec chaque homme un livre qui s'écrit pendant sa vie, et le jour du jugement, c'est comparer les livres. Est-ce que ce qui a écrit là correspond à ce qui a écrit là? Donc, vous savez qu'il y a trois catégories de livres, les livres des Rechaïm, les livres des Tzadikim, les livres des Benonim, et chacun a son livre. Et tous tes actes s'écrivent dans un livre. Et alors, au moment de faire le jugement, les anges sont pris d'une émotion. Ils s'aperçoivent qu'on ne peut pas faire le jugement, à moins de juger que Israël. Parce que seul Israël a accepté la Torah, on ne peut juger qu'Israël. Vous ne croyez pas que c'est un midrash anti-juif. Mais la formule est très simple. Les autres sont hors la loi, on ne peut pas les juger, puisqu'ils n'ont pas accepté la loi, ils n'ont pas accepté de juger d'après la loi. Par conséquent, ils ne sont pas jugés d'après la loi, ils sont jugés d'après Erke. Étymologiquement, c'est apicole, c'est la chaîne Erke. Et Dieu répond aux anges, eh bien, on va juger Israël. À ce moment-là, les anges, comme un seul homme, les nations, comme un seul homme, disent, nous voulons témoigner. Je vous paraphrase ce qu'il y a dans la page B de Sotin. Nous voulons témoigner quoi? Eh bien, voilà, nous témoignons que nous avons fait.